Seigneur, merci pour ta parole. Nous l'aimons, Seigneur. Elle est vraie, elle est inspirée, elle est juste, elle est droite, elle est parfaite. Il n'y a aucune erreur, aucune contradiction dedans, Seigneur. Et donc, nous venons et nous l'abordons toujours avec une certaine crainte, Seigneur, car nous voulons être justes dans la manière où nous la divisons, nous l'étudions ou nous la proclamons. Et Seigneur, encore sur ce sujet aujourd'hui de l'adultère, tu vois que le sujet est très à jour quelque part. La sexualité est tellement partout autour de nous aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons comprendre quel est ton regard, quelle est ta compréhension sur la sexualité. Donc je te prie maintenant de nous guider, Seigneur, et que vraiment personne ne soit choqué ou surpris, parce que la Bible est très claire sur ce sujet, mais surtout, Seigneur, qu'on soit étonné par la clarté des Écritures, par celui qui les a écrites, toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Et donc, nous voulons t'honorer et te glorifier au nom de Jésus. Amen. Voilà, ben écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Nous voulons, ce matin, dans la continuation de notre série, aborder le sujet de l'adultère. D'adultère, le septième commandement. Alors j'aimerais juste le lire pour commencer, comme ça on comprendra bien le texte que nous voulons examiner ce matin. Donc on est dans Exode 20 et le verset 14, où il est dit ceci: tu ne commettras point d'adultère. Voilà notre texte. Alors c'est un défi pour moi parce qu'il y a tellement dans la Bible sur le sujet de l'adultère que c'est évident qu'il va falloir quelque part faire un tri. On ne peut pas aborder le sujet de manière totale, de manière exhaustive ce matin, c'est tout simplement pas possible. Donc je vais essayer de donner un survol ce matin et essayer de donner l'essentiel de ce sujet, la compréhension de Dieu, c'est ce que nous voulons sur ce sujet. Et bien sûr mon but n'est de choquer personne. Mais la Bible est très claire, elle est très détaillée sur le sujet de la sexualité, donc je ne vais pas être plus détaillé que la Bible, mais je ne vais pas être moins détaillé non plus, donc j'espère que c'est comme ça qu'on devrait, je pense, aborder le sujet. Alors peut-être, en guise d'introduction, je pense que ça ne va pas être une surprise. Bon, je risque d'aller un petit peu long aujourd'hui, mais alors si vous voulez partir, vous partez, mais moi je reste jusqu'à la fin, d'accord? Juste pour vous dire. Alors c'est vrai qu'on vit dans une génération adultère. L'adultère est devenu une institution, on pourrait dire, dans notre littérature, dans notre musique, dans nos comédies télévisées, dans nos films, dans le journal, dans la vie des gens que nous côtoyons tous les jours. En fait, on a l'impression que l'adultère n'est plus simplement toléré, l'adultère est célébré. En fait, l'adultère de notre jour n'est pas vraiment un problème. L'adultère est naturel. La monogamie est un concept du passé. Un auteur, cette semaine, a parlé de ce qu'il appelle la polygamie moderne. Alors, la polygamie moderne, c'est quoi? C'est les gens qui se marient, divorcent, marient, divorcent, marient, divorcent, marient, divorcent, marient, divorcent. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu sais, moi, ça fait 25 ans que je suis marié, il a dit, ah ben moi aussi, si tu ajoutes toutes les femmes que j'ai épousées, une après l'autre. C'est un petit peu la polygamie moderne aujourd'hui. Non, l'adultère n'est pas un concept nouveau, ça c'est sûr. La preuve. L'interdiction de l'adultère se trouve dans la liste des 10 commandements. C'est le 7e commandement. Ce commandement donc fait partie des règles sociales fondamentales décrétées par Dieu pour l'homme. Le commandement contre l'adultère, c'est en fait, si on peut le dire ainsi, la règle de la pureté sexuelle. Et pourtant, nous en sommes bien loin. Alors, le contexte de ce commandement est intéressant. Le peuple d'Israël se préparait à rentrer dans la terre promise pour vivre selon l'alliance décrétée par Dieu. Dieu voulait que son peuple soit différent des peuples païens qui, eux, avaient des mœurs décadentes tout autour d'eux. Il voulait, non, tu es mon peuple, tu vas être différent qu'eux. Et la pureté sexuelle était une des manières que le peuple de Dieu devait être différent des autres. Alors bien sûr, cette loi, ce commandement avait plusieurs objectifs, de souligner bien sûr l'importance de la fidélité conjugale, et ça on va le voir, mais elle avait aussi comme service rappeler Israël la responsabilité qu'elle avait de rester fidèle à Dieu. Donc il y avait un élément spirituel quelque part. L'adultère spirituel était également interdit, et ça on le voit dans le premier commandement et le deuxième. Verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne feras point d'image taillée. Avoir un autre Dieu que le seul Dieu est un adultère spirituel. Donc, le lien est parfait. Et combien de fois dans son histoire, Dieu va-t-il juger Israël pour s'être prostitué? Dans Jérémie 3, 6, nous lisons ceci. L'Éternel m'a dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Par sa criante débauche, verset 9, Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Donc vous voyez, Dieu utilise cette même image de l'adultère pour décrire l'éloignement du peuple de Dieu vis-à-vis de lui pour s'attacher à un autre Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est intéressant. L'Église est appelée quoi? L'épouse de Christ. De nouveau, l'image du mariage est là. Dans Apocalypse 19, nous parlons dans l'éternité d'avoir le festin des noces de l'agneau. Nous attendons notre réunion avec notre mari, quelque part Christ, n'est-ce pas? Et donc d'aller vers un autre Dieu, c'est un adultère spirituel. Donc, revenons au commandement. Verset 14, Exode 20. Tu ne commettras point d'adultère. J'aimerais, pour examiner ce passage, le faire par une série de questions. Enfin, ça va être plus simple. Donc, je vais poser une série de questions et je vais essayer de répondre à ces questions. Et ensuite, je pense que ça va nous aider à comprendre le but de ce commandement. Alors, posons la première question. Qu'est-ce que l'adultère? C'est quoi l'adultère? Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire. C'est bien toujours commencé là. Petit Robert, il dit « Fait d'avoir volontairement des rapports sexuels en dehors des liens du mariage, infidélité conjugale. » L'adultère, c'est donc un homme marié qui couche avec une femme autre que son épouse ou bien une femme mariée qui couche avec un homme autre que son mari. Ça, c'est la définition de l'adultère. Malheureusement, il y a plein d'exemples dans la Bible. D'accord? Je vous en donne un, le plus connu, probablement de tous, 2 Samuel 11, David. Verset 1, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs en tout Israël pour détruire les fils d'Ammon, pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. D'accord, 2 Samuel 11, 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. 3. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Verset 4, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Elle devint enceinte. Mes amis, ça, c'est de l'adultère. Il a couché avec la femme d'un autre. Donc, voilà ce qu'est l'adultère. Alors maintenant, l'adultère est différent que la fornication. Je vais expliquer ça. Ou ce qu'on appelle couramment la débauche sexuelle. Dans le Nouveau Testament, la fornication est souvent utilisée par le mot pornos, duquel nous dérivons le mot pornographie. La fornication, c'est une relation charnelle ou des rapports sexuels entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Donc en termes généraux, la fornication ou la débauche, c'est tous les autres rapports sexuels interdits, excepté ceux entre un mari et une femme. Donc, il y a les rapports entre mari et une femme, et tous les autres rapports sexuels, hors de ça, c'est ce que la Bible appelle débauche ou fornication. Alors, nous savons que la débauche et l'adultère sont deux concepts différents dans la Bible, parce que souvent, on les trouve l'un à côté de l'autre dans la Bible. Donc, il doit forcément dire quelque chose d'autre, ou avoir une définition différente. Par exemple, dans Matthieu 15, 19, Jésus parle du cœur humain et il dit « car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres ». Ensuite, il dit « les adultères, les débauches ». Donc, adultère et débauche sont deux choses différentes. En Corinthiens 6, 13, nous dit que la débauche est une chose interdite. En Corinthiens 6, 13, les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Voilà, le corps n'est pas fait pour la débauche sexuelle. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans 1 Corinthiens 7, il est dit... Au verset 1, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher une femme. Attendez, ça veut dire quoi? Un homme marié ne veut pas toucher sa femme mariée? Lisez le verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, pornos, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc on voit que c'est très différent. La débauche sexuelle, ce sont des relations sexuelles hors mariage. Le mariage, c'est le mariage, et péché sexuel à l'intérieur d'un mariage s'appelle l'adultère. Alors, j'aimerais que vous alliez avec moi à Hébreux 13. Regardez, j'aimerais vous montrer ça, parce que là, s'il y a un verset qui est vraiment clair par rapport à ça, c'est bien Hébreux 13, et le verset 4. D'accord? Parce que ce verset nous décrit les trois options sexuelles. Si on résume maintenant la sexualité, il y a trois options sexuelles dans la vie. Regardez. Et tout se résume dans un verset. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voilà, il n'y a que trois options sexuelles. Premièrement, le mariage. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Tout le monde devrait... Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que la sexualité est réservée pour le mariage. Et à l'intérieur de le mariage, du mariage, la sexualité, c'est bien. C'est ce qu'il dit. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Le lit conjugal est fait pour les gens mariés. N'apportez pas la souillure dans ce lit. Alors, c'est quoi cette souillure? Eh bien, il continue. Dieu jugera les débauchés, les adultères. Les adultères, c'est quoi? Eh bien, l'adultère, c'est celui qui pêche à l'intérieur du mariage. La débauche, c'est toutes les autres interdictions sexuelles. Et d'amener un ou l'autre dans le lit conjugal, ce serait un mal. Et Dieu dit clairement qu'il jugera les débauchés et les adultères. Alors c'est quoi donc cette débauche? Eh bien, c'est toutes les autres déviations sexuelles, que ce soit... Alors là, il y a beaucoup de versets, mais je ne vais pas vous les donner. Enfin, je peux vous les donner. La prostitution, Lévitique 19, 29... La prostitution sacrée, Deutéronome 23, 18, l'homosexualité, Lévitique 18, 22, la bestialité, Exode 22, 19, la transvestiture, Deutéronome 22, 5, l'inceste, 1 Corinthiens 5, 1, etc., etc., etc. Donc revenons au commandement, l'adultère proprement dit, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels en dehors des liens du mariage. C'est ce qu'on appelle l'infidélité conjugale. Deuxième question. Quelles étaient les conséquences de l'adultère dans l'Ancien Testament? Lévitique 20, 10. Allons-y. Lévitique 20, 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Plutôt clair. De mort. Vous dites, mais John, s'il n'y a pas une erreur de frappe, là ? Deutéronome 22, 22 dit, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Alors c'est intéressant, les deux devaient mourir. C'est intéressant dans Jean 8, quand la femme adultère est apportée à Jésus, la femme, tout le monde veut la lapider, où est l'homme ? Parce qu'ils disent elle a été prise en flagrant délit. Alors où est l'homme ? C'était l'injustice. La femme souvent était plus accusée que l'homme. C'est faux. La Bible est claire. Les deux devaient mourir. Les deux. Vous dites, mais John, d'avoir la peine de mort pour l'adultère, c'est quand même radical. Oh, ben plutôt que c'est radical. Ça ne peut pas être plus radical. Et c'est intéressant, on a vu la semaine dernière. Quoi ? Tu ne tueras point, le sixième commandement. Quelle était la conséquence ou la punition dans l'Ancien Testament pour le meurtre ? La mort. La mort. Eh bien, si la sentence pour l'adultère est la même que pour le meurtre, alors aux yeux de Dieu, l'adultère est aussi grave que le meurtre. Dieu a créé le mariage et veut qu'il soit honoré. Mais tu dis, mais pourquoi ? Pourquoi c'est si radical ? Ah, parce qu'il faut retourner à Genèse 2, 24. Et dans Genèse 2, 24, là, quand Adam et Ève se rencontrent et ils sont mariés devant Dieu, il est dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme. Il y a un attachement, il y a un engagement, une femme, sa femme, concept de mariage, et ils deviendront une seule chair, certainement une image sexuelle ici, duquel sortira bien sûr un enfant. Alors maintenant, s'ils deviennent une seule chair, s'ils sont un, la rupture de ce mariage ne fait pas deux fois un. Ça fait deux moitiés. C'est comme un meurtre aux yeux de Dieu. C'est ce que Jésus exactement il a dit dans Matthieu 19 par rapport à cela. On lui a demandé, est-ce qu'un homme peut ? Verset 3, les pharisiens l'abordèrent, Matthieu 19, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Est-ce que je peux divorcer ma femme pour n'importe quelle raison ? Je ne sais pas, elle a brûlé le dîner, est-ce que je peux la divorcer ? Eux, ils répondraient, ouais, on y reviendra, d'accord ? Il répondit, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, écoutez ce que Jésus dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quelque chose se passe dans un mariage. Lorsque Dieu regarde un couple marié, il ne voit plus deux. Bien sûr, on est deux individus, mais lui voit une unité. Le mariage, c'est deux devenus un. Il dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et ensuite, Jésus dit, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tout mariage, même de non-chrétiens, d'une manière mystérieuse, devient une unité aux yeux de Dieu. Et lorsqu'on divise un, on a quoi ? Deux moitiés. Et je pense que l'avortement, c'est l'illustration de la tragédie de ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. Un enfant, si vous regardez l'enfant, est-ce que c'est plus papa ou plus maman ? Si on voulait diviser papa et maman de l'enfant, on fait quoi ? Bon, on essaie de couper en deux. Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant ? Il meurt. On tue un. Le mariage, aux yeux de Dieu, c'est un. Et une rupture de mariage, ça devient deux moitiés. Et c'est pour ça que le divorce est une tragédie qui fait tellement mal à tellement de personnes, bien que le monde veut nous faire croire que ce n'est pas vrai. C'est très vrai. Je trouve intéressant au niveau d'Adam et Ève. Imaginez un instant le divorce d'Adam et Ève. Mais c'est ridicule. Ridicule d'y penser. Parce que dans le jardin d'Eden, il n'y avait pas Adam, Ève et Bernadette. Il n'y avait pas Adam, Ève et Hugo. Non, il n'y avait que Adam et Ève. Mais l'idée d'un adultère n'était même pas concevable. L'idée d'une rupture n'était même pas concevable. Il n'y avait qu'eux. Alors, ça c'était la, je dirais, la loi sur l'adultère, la peine de mort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous savez, Dieu est un Dieu de miséricorde et de bonté. Et à un moment donné, je pense que l'adultère, ben on connaît bien le concubinage, l'adultère, la polygamie. Hein, vous lisez les histoires de la Bible et vous voyez que même les gens, les meilleurs, péchaient dans ce domaine de sexualité. À un moment donné, Dieu a fait une concession. Une concession qui s'appelle le divorce. Dans Deutéronome 24, je vais juste lire sans commentaire parce que ce serait trop compliqué. Lorsqu'un homme, verset 1, lorsqu'un homme aura pris une épouse et épousé une femme qui viendrait ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après l'avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc tout simplement, sans rentrer dans le détail, on voit que dans certains cas, il y avait une permission ou une concession de divorce. De nouveau, on le voit dans Matthieu 19, cela. Dans Matthieu 19, ce que je viens de dire tout à l'heure, Jésus répond, écoutez, au début, alors les pharisiens sont venus lui demander, mais est-ce qu'on peut divorcer pour quelque cause, n'importe laquelle? Et il dit, mais écoutez, regardez, dans Adam et Ève, il n'y avait pas le divorce, ce n'était pas possible, ils étaient un, donc ne séparez pas ce que Dieu a uni. Mais ensuite, au verset 7 de Matthieu 19, ils répondent, les pharisiens répondent, pourquoi donc lui dirent-ils que Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Eux, ils disent, mais Moïse a dit, il peut la divorcer. Jésus répond, verset 8, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, pas prescrit, permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Et ensuite, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie ou qui divorce sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Si tu divorces une femme pour une autre raison que l'adultère et tu en épouses une autre, tu viens de commettre un adultère avec la femme que tu viens d'épouser. Donc tout ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a déjà, par pure grâce de Dieu, ils regardent les gens et ils disent, il permet, dans certains cas, cette concession de divorce. Écoutez, c'est exactement la même concession qu'il nous fait à nous tous. Moi, j'ai souvent pensé ça. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur à l'âge de 19 ans, en Inde. Pendant 19 ans, je vivais une vie rebelle à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il m'a accordé la vie? Il aurait pu me tuer à l'instant, car le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi a-t-il attendu 19 ans pour me faire grâce en Jésus-Christ? C'est sa grâce. La loi est claire, mais il fait grâce tellement souvent par rapport à la loi, à sa propre loi. Et c'est intéressant que dans Jérémie 3, 8, il est dit que Dieu a même divorcé Israël et lui a donné une lettre de divorce. Dieu aurait pu, comme il avait déjà fait, n'est-ce pas, dans le déluge, il aurait pu détruire le monde, il aurait pu détruire Israël, mais non, non. Par grâce, il a autorisé, dans certains cas, le divorce. 3. Quel est l'enseignement de Jésus par rapport à l'adultère? Alors là, ça devient hyper intéressant. Matthieu 5, allons-y, Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 27. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors Jésus répond par rapport à la compréhension rabbinique de l'adultère. Pour eux, les rabbins à l'époque, ils enseignaient le septième commandement, tu ne dois pas commettre l'adultère. Mais le dixième commandement, il est dit, tu ne devrais pas convoiter la femme de ton prochain, et il l'ignorait. Celui-là, il ne l'aimait pas trop. D'accord ? On va en parler plus tard. Donc, pour eux, c'était simple. Ils disaient, l'acte même d'adultère est défendu, mais bon, on peut se permettre un petit peu, presque n'importe quoi, jusqu'à l'acte. Ils avaient rétréci le commandement et l'interprétation archi-stricte vis-à-vis de l'acte. Mais regardez ce que Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point un adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec dans son cœur. Waouh ! Jésus prend l'adultère et va à un tout autre niveau. Enfin, c'est le niveau du dixième commandement. Le niveau de la convoitise, n'est-ce pas ? Regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Alors, le mot « regarder », c'est un participe présent en grec qui implique un prolongement de regard. Ce n'est pas un regard accidentel, mais le regard volontaire qui refuse de se détourner, qui cherche une stimulation sexuelle par ce regard. C'est ce que David a fait. Il a vu et il voulait cet objet. Pour la convoiter, voilà le but du regard. Prosto epoutemia, qui veut dire vers ce désir, vers la convoitise. C'est intéressant, Matthieu 15, Jésus dit que le cœur est plein d'adultère, et donc ce cœur cherche un objet où il peut s'attacher pour se gaver de fantasmes. Ça, c'est le problème du cœur humain. Donc, son œil, c'est comme un radar. Et ting, 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 ting. Et il trouve des objets sexuels pour pouvoir se gaver. Ça, c'est le problème du cœur et de l'œil de l'homme. Et donc ici, Jésus dit que le cœur a déjà décidé qu'il va convoiter et se déplace pour le faire. Le cœur qui mène au corps, souvent, n'est-ce pas ? Que ce soit une femme réelle ou une femme virtuelle. Il parle d'un homme, mais ça pourrait être aussi la femme. Alors attention, hein, moi j'aimerais bien souligner ceci. Ce n'est pas le fait d'admirer une belle femme ou un bel homme. Alors, on n'a pas tous porté des lunettes de soleil archi foncées pour ne rien voir et tous, je sais pas, tâter. C'est pas ça. Non, ce n'est pas le problème d'admirer une belle femme ou un bel homme. Ce n'est pas non plus l'attirance normale d'un célibataire pour une femme célibataire ou une femme célibataire pour un homme célibataire. Non. Je pense que ces désirs-là sont les désirs que Dieu place dans un cœur. Dieu a mis la sexualité dans le cœur humain. Donc ce n'est pas un mal, n'est-ce pas, d'admirer ou de penser qu'on est normal sexuellement. Mais ici, Jésus dit bien autre chose. C'est le fait de convoiter, c'est le fait de vouloir sexuellement quelqu'un qu'on ne devrait pas vouloir et se laisser aller dans ce désir, désirer avec avidité, d'une manière immodérée, une femme qui n'est pas la mienne. Et si tu te permets de faire cela, eh bien regardez ce qu'il dit, si tu fais ça, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Écoutez, on est cuit, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu as déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. Regardez, c'est intéressant. Ce n'est pas notre regard de convoitise envers une femme qui nous fait commettre l'adultère, non. Car Jésus dit que tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Ce n'est pas convoiter qui provoque le péché, mais le péché qui provoque la convoitise. Un cœur adultère me fait vouloir convoiter. Et c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, je l'ai lu tout à l'heure. Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On l'avait vu avec le meurtre, n'est-ce pas ? Le meurtre, c'est l'acte de tirer sur la gâchette, mais la préméditation te condamne. Donc c'est le cœur le problème. Tirer la gâchette, c'est simplement l'acte normal d'une personne qui a de la haine dans son cœur et qui refuse d'arrêter la haine. Eh bien, l'adultère, c'est pareil. J'ai déjà l'adultère dans mon cœur, je laisse mes pensées et mon cœur s'enfler, et ensuite, tac, je passe à l'acte. Mais c'est déjà fait dans le cœur. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Aussi important de dire que la tentation au désir sexuel n'est pas en fait un péché. Jésus a été tenté en toutes choses, nous dit la Bible, mais n'a pas péché. Donc on peut être tenté sans péché. Ça, c'est intéressant comme concept. En fait, écoutez bien ce que je vais dire. Les désirs sexuels sont bons. C'est pas un mal. Ils sont justes. Ils sont normaux. Ils sont placés là par Dieu. Les désirs sexuels que nous pouvons avoir nous montrent que notre corps marche bien. Il fonctionne bien, de manière que Dieu a créé le corps humain. Non, le désir sexuel n'est pas un mauvais désir. C'est Dieu qui nous a créés en tant qu'être sexuel, mais Dieu a créé l'acte sexuel pour le mariage. Donc le problème, ce n'est pas les désirs, mais c'est le mal diriger ces désirs sexuels. Ils doivent être impérativement réservés pour le mariage. Point à la ligne. Alors, quelle est la solution que Jésus propose à ce problème de convoitise et d'adultère dans le cœur? Regardez le verset 29, on est dans Matthieu 5. Jésus dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton cœur entier ne soit jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. » C'est incroyable ce qu'il nous dit de faire là. Alors, on a vraiment l'impression qu'il parle littéralement ici, non? Écoute, si tu as un problème avec la convoitise et ton œil regarde, a une tendance à vouloir regarder, bah arrache-le. Arrache ton œil. Si c'est ta main qui te pose un problème, prends un couteau ou une hache et clac, coupe-toi la main. Le problème est résolu, une fois pour toutes. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Où est le problème? Dans le cœur, mes amis, c'est ce que Jésus vient de dire. Dans Matthieu 18, 8, il ajoute le pied en plus. Si ton pied te fait pécher, coupe-le. Alors vous savez qu'il y a des chrétiens dans l'histoire qui ont décidé que c'était littéral. Il y a un homme qui s'appelle Saint Anthony, c'est un moine au Moyen-Âge. Pour lutter contre la convoitise, il a décidé de vivre sa vie, la vie d'un ermite, et il s'est dit, si je fuis la convoitise, alors ce ne sera plus un problème pour moi. Il jeûna, il viva sans beaucoup dormir, il pria, il se tortura. Pendant 35 ans, il a vécu dans le désert et pendant ces mêmes 35 années, il lutta sans cesse et sans relâche contre les tentations. Dans une biographie écrite sur ce moine, il est dit, et je cite, « En premier, le diable a essayé de le divertir de sa discipline, et lui rappelant les souvenirs de ses richesses d'avant, de l'amour qu'il a eu pour les femmes, et de son amour pour les gloires, les plaisirs de la table et les autres plaisirs de la vie qu'il avait eus. Le diable lui chuchotait également des pensées viles et grossières. Cet Anthony a essayé de lutter, de prier, mais rien à faire. Les pensées de la chair qu'il avait eues le faisaient parfois même rougir, tellement détaillé était-il. Alors il jeûna encore plus, mais rien à faire. La nuit, selon l'auteur, le diable aurait même pris la forme d'une femme et aurait imité ses actes pour le faire chuter. Et notre ami Saint Anthony a découvert que le vrai problème, c'est quoi? C'est le cœur. Tu peux aller te paumer dans un monastère pendant 35 ans, tu auras le même problème. Parce que ton cœur est rempli d'adultère. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Peut-être le plus célèbre d'entre les mutilés pour le Seigneur est nul autre qu'Origène d'Alexandrie au IIIe siècle. Lui croyait à l'interprétation littérale de ce texte. Il est allé à l'extrême de l'ascétisme et il s'est fait littéralement castrer. Pour pouvoir lutter avec ce problème, une décision qu'il regretta pour le reste de sa vie, réalisant qu'il avait mal interprété l'Écriture. Mes amis, avant de prendre une décision radicale, soyez certains de consulter avec quelqu'un, être sûr que vous interprétez de manière juste les Écritures. Ça peut avoir des conséquences drastiques. Alors, comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas littéral? Jésus parle du cœur. En fait, il y aurait une solution physique, c'est laquelle? Il faudrait pouvoir couper son cœur. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? T'es fini. D'accord ? Donc ça, c'est pas la solution. Si j'arrache mon œil droit, quel est le problème ? J'ai un œil gauche. Voilà. Donc ça peut pas être ça. Et si je me coupe la main droite, quel est le problème ? J'ai une main gauche. Si je coupe le pied droit, quel est le problème ? J'ai un pied gauche. C'est intéressant, après l'acte d'Origène, le concile de Nicée s'est convoqué en 325 et a condamné l'acte barbare de cette pratique. Il a dit non, arrêtez. C'est pas ça, la bonne interprétation de la Bible. Et c'est intéressant que dans Romains 7, Paul parle d'une lutte perpétuelle, même dans la vie d'un chrétien, dans son cœur. Alors que veut dire Jésus ? Eh bien, dans la société juive, l'œil et la main représentaient les meilleures facultés d'une personne. Œil droit était la meilleure vision, main droite le meilleur talent. Et ce sont intéressamment l'œil et la main, deux éléments qu'il faut avoir pour pouvoir prendre quelque chose. Pour prendre quelque chose, il faut voir la chose et pouvoir la prendre. L'implication, c'est que quand je convoite une femme dans mon cœur, je commets un adultère car je veux prendre ce qui n'est pas légitime à moi. Et ça, c'est une des choses très intéressantes par rapport à l'adultère, mes amis. Pensez-y. C'est tellement intéressant tout ça. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors certains ici traduisent femme, d'accord ? Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne, et voici le contexte sexuel, n'use envers son frère de la fraude et de la cupidité dans ses affaires, donc sexuelles, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons dit déjà et attesté. Il est en train de dire, le problème avec la débauche sexuelle, avec la sexualité, c'est quand tu prends quelqu'un et tu couches avec cette personne, tu es en train de voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que cette femme ou cet homme avec qui tu couches appartient à qui en fait ? À son mari ou à sa femme ? Mais tu dis, ouais, mais ils ne sont pas mariés. Mais ils le sauront peut-être un jour. Et donc tu es en train de voler quelque chose qui appartient à son mari, qu'il soit actuel ou futur. Et ça, tu n'as pas le droit. C'est un vol. C'est un vol. La sexualité d'une personne appartient au conjoint de la personne. Donc Jésus, ce qu'il est en train de dire ici, c'est ça. Quand tu es tenté, sois radical. C'est ça qu'il est en train de dire. Sois radical. Tellement radical, ce serait comme t'arracher un œil, comme te couper une main, comme te couper un pied. Voilà le radical qu'il faut pour fuir ce péché sexuel. Moi, j'ai entendu parler de personnes qui ont été tellement tentées au travail par des femmes, secrétaires ou autres, qu'ils ont dû littéralement quitter leur emploi. Ça, c'est radical. Ça, c'est quelqu'un qui veut vraiment marcher avec le Seigneur. La faiblesse de la chair humaine est telle que parfois, il faut prendre des décisions radicales. Quatre, le divorce est-il autorisé dans le cas de l'adultère ? Tu dis, oh, mais John, mon conjoint a commis l'adultère. Est-ce que j'ai le droit de divorcer ? Alors, on a vu dans Deutéronome 24 que Dieu a donné une concession de divorce dans certains cas. Le problème, et ça on l'a vu dans Matthieu 19, la question est celle-ci au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Et il dit, voilà, est-ce que je peux divorcer ma femme pour n'importe quelle raison ? C'est ce qu'il disait. Hein. Puis j'ai une liste de toutes sortes de raisons, mais complètement farfelues, que les pharisiens avaient énumérées pour permettre le divorce. Vraiment, elle te brûle le dîner, tu avais le droit de lui faire une lettre de divorce. Est-ce que ça, c'était l'intention de la loi ? Franchement. Non. Au verset 9, il donne la réponse de Matthieu 19. Je vous le dis que celui qui répudie ou qui divorce sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu divorces ta femme pour n'importe quelle raison autre que l'adultère, et tu répousses quelqu'un d'autre, tu viens de commettre adultère. Qui veut dire que la seule raison valable que Jésus donne ici pour le divorce, c'est quoi ? L'adultère. L'adultère. Donc, est-ce que Jésus est en train de dire que, dans le cas d'adultère, il est possible, légitimement, de divorcer son épouse ou son mari ? Je réponds, moi je pense oui, c'est comme ça que je comprends ce texte. Matthieu 5, 31, il a été dit que celui qui divorce sa femme ou répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Waouh ! Donc, si toi et ton conjoint, disons, si un couple divorce sans qu'il y ait eu adultère, les personnes avec qui ils vont, qu'ils réépousent, deviennent adultères. Donc, eux deviennent adultères lorsqu'ils couchent, même dans un lien de mariage, avec ces autres personnes. Pourquoi ? Parce que le mariage n'a pas été rupturé par l'adultère jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est un divorce illégitime, bibliquement. C'est ce que Jésus dit ici. Donc, la seule possibilité, je dirais, de divorce légitime aux yeux de Dieu, ce serait un adultère, et moi je mettrais un bémol par rapport à cet adultère, je dirais un adultère durci. Lisez le livre d'Osée. Osée avait une femme adultère, et il l'a aimée, et il l'a aimée encore. Il a été la racheter sur un bloc d'esclavage un jour. Il a dit, bon, écoutez, oui, c'est vrai qu'elle est adultère. Elle a eu 3 enfants dans une relation adultère, mais il a refusé de la répudier, il a refusé de la divorcer, il a dit non, je vais t'aimer et je vais t'aimer jusqu'au bout. Et il est revenu. Ça, je pense, ça c'est la loi du cœur, ça c'est la loi de l'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, et comme à l'époque, on prenait la loi pour essayer de trouver un moyen de se débarrasser d'une personne qu'on n'aimait pas. Non, c'est tout le contraire. Jésus dit, mais non, c'est la loi de l'amour. On aime quelqu'un jusqu'au bout. Oui, un adultère, c'est grave, c'est terrible. Il y aurait possibilité de divorce si c'est un adultère durci ou endurci. Mais tu sais quoi ? Aime, aime et attends. Peut-être qu'il ou elle reviendra. Ça, je pense que c'est... C'est vraiment le cœur du texte ici. Une autre possibilité, dans 1 Corinthiens 7, 10, on ne va pas regarder, vous pouvez lire vous-même, un non-chrétien qui divorce un chrétien. Vous êtes un couple, peut-être non-chrétien, un des conjoints se convertit. Et là, le non-chrétien, il n'en peut plus, quoi. Il ne peut plus vivre avec ce ou cette chrétienne, son conjoint. Alors, ce n'est pas parce que vous l'embêtez avec tous vos traités, vos bibles et tout ça, les CD à droite et à gauche, mais simplement parce que votre vie devient un irritant pour lui, ou elle. Et donc la Bible dit que si dans le cas où le non-chrétien veut partir, laisse-le partir. Là, ce serait une possibilité, je pense. Et bien sûr, le veuvage aussi, en Corinthiens 7, 39. Je pense que la clé ici, c'est le cœur de nouveau. Voilà. Est-ce qu'on cherche une sortie ? Hein ? Est-ce qu'on cherche une sortie ? Allez vite ! Oh, j'en ai marre. Et on rentre dans les relations de polygamie moderne ? Parce qu'on en a marre chaque fois ? Ah, c'est pas ça l'attitude, mes amis. Un chrétien, il aime. Il va tout faire pour reconquérir son conjoint qui peut-être est tombé dans l'adultère. 5. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes maintenant et complètement changer de cap, être joyeux. Moi, j'aimerais parler du mariage. Le mariage. Et oui, c'est le renvers de la pièce, n'est-ce pas ? Il ne faut pas commettre adultère. Ça veut dire quoi ? Ayez des super mariages. Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais pas juste des mariages. Des mariages top niveau, quoi. Nos mariages, mes amis, nous avons le mode d'emploi par le créateur du mariage. Il est là. Si nous, qui connaissons le Seigneur, ne pouvons pas avoir des mariages révolutionnaires, top niveau, absolument génial, c'est triste. C'est triste. Alors, le mariage, c'est quelque chose qu'on règle toute une vie. On a tous des cœurs, on les a lus, hein, nos cœurs comme ils sont. Et donc c'est quelque chose qui se travaille pendant toute une vie. Mais nous avons Saint-Esprit, nous avons Jésus-Christ, nous avons la parole de Dieu. Premièrement, les bienfaits du mariage, juste trois, d'accord? Il y en a beaucoup, hein. Mais je vous en donne trois. Premièrement, le bienfait du mariage, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Honneur. Le mariage est honorable. Dieu veut que tout le monde honore le mariage. Quelque chose d'honorable. Deux. C'est une bonne chose. Bonne chose, exactement, c'est ce que la Bible dit. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous répondez, ouais, ben alors John, ça c'est pas mon cas. Attendez voir, d'accord. Je l'applique pas directement à vous, je ne connais pas votre situation, mais c'est ce qu'il dit. Celui qui a trouvé une femme, ou qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Écoute, si le mari et la femme marchent avec l'Éternel, sont de l'Éternel, aiment l'Éternel, sont pardonnés par l'Éternel, suivent les directives de l'Éternel, eh bien, le mariage ne peut-il pas être heureux et une source de bonheur? Et bien sûr. Sinon, je perds mon temps, là, complètement. Bien sûr que c'est possible. Et Proverbe 5, 18, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Le mariage devrait être une joie. Ok John, alors explique comment faire. Vous êtes prêts? On y va. C'est la partie pratique. Comment faire pour qu'un mariage soit honoré, soit une bonne chose, soit joyeux et comment se protéger de l'adultère? Je mets ces deux choses ensemble. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un mauvais mariage est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut pousser à l'adultère. Donc en fait, on n'a pas de solution. Il n'y a qu'une. Un bon mariage qui nous permettra d'éviter l'adultère. Alors, comment faire? Plusieurs principes, d'accord? Numéro 1. Alors, je vous ai dit que j'allais un petit peu long, mais ce n'est pas grave, d'accord? Numéro 1. Marche proche de ton Dieu. Marche proche de ton Dieu. Aime Dieu et aime ce que Dieu aime. Écoute, si ta relation avec le Seigneur est intime, vivante, transparente, régulière, alors les tentations vont être moindres. Les attaques sataniques vont pouvoir être repoussées par la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, Jésus a été tenté. Chaque fois, par la parole de Dieu, il a pu repousser les attaques. Ben ça implique qu'on doit connaître la parole de Dieu, on doit marcher avec le Seigneur, on doit utiliser notre épée pour pouvoir nous protéger des tentations. Écoutez, je vous dis, je vais parler honnêtement. J'ai souvent dit, ma plus grande joie dans mon mariage, c'est de voir mon épouse lire sa Bible tous les matins. Elle a son siège, elle se met là, elle lit sa Bible. Et quand je la vois lire sa Bible, je suis tellement heureux. Pourquoi? Parce que je me dis, mais c'est génial, elle est en train de cultiver sa relation avec le Seigneur. Et quand elle me voit lire ma Bible, elle voit que je cultive ma relation avec le Seigneur. Ça, c'est la clé, mes amis. C'est la clé fondamentale. Et quand un ou les deux n'ont plus regard à Dieu, à la parole de Dieu, alors là, ça devient très, très, très compliqué. Parce que tu mets de côté le manuel de vie. Donc, tenez bon, mes amis. Marchez avec le Seigneur. Intimement. Deux. Garde avec ténacité tes vœux. Garde avec ténacité tes vœux. Tu as pris des vœux lorsque tu t'es marié. Et Ecclésias 5 dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, et lorsqu'on se marie devant Dieu, on fait un vœu à Dieu. Ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est radical, mes amis. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, tu le tiens. C'est un choix, c'est une décision. C'est comme la décision, ben, voilà, j'ai un emploi, je dois y être à 8 heures, j'y suis. Même si j'ai mal dormi, j'y vais. C'est une décision. Ben, écoutez, dans le mariage, c'est pareil. C'est une décision. La seule différence, c'est que c'est jusqu'à la mort. Vous dites, John, ouais, mais c'est long jusqu'à la mort. C'est marrant, vous savez, quand Jésus, dans Matthieu 19, quand Jésus dit, je vous dis au verset 9, hein, celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, comme un adultère, il dit aux disciples, écoutez, il n'y a qu'une possibilité de divorce, c'est l'adultère, rien d'autre. À quoi les disciples, c'est l'humour ici, hein, ils disent, ces disciples disent, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont tout compris, dit votre maman. Si je suis coincé pendant toute ma vie et la seule possibilité de me sortir de mon mariage, c'est l'adultère, ben peut-être que je ne devrais pas me marier. Exactement. Exactement. Il lui répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela a été donné. Réfléchissez bien avant de vous marier, parce que c'est long. Mais c'est une joie, et c'est honorable, et c'est joyeux, et c'est super. D'accord ? Trois, satisfait constamment les besoins émotionnels de ton conjoint. Satisfait constamment les besoins émotionnels de ton conjoint. Écoute, pourvois à ses besoins émotionnels. L'adultère arrive souvent lorsque le conjoint ne se sent pas apprécié ou que ses besoins affectifs ne sont pas satisfaits par son conjoint. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits dans leur cœur, ils vont tôt ou tard aller chercher autre part. Donc notre attitude se trouve dans Philippiens 2. Vous vous rappelez, ne faites rien par esprit de parti et de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, ton époux, ton épouse, comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais oui! Honore ton conjoint. 4. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est super important, surtout par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. 4. Satisfais constamment les besoins sexuels de ton conjoint. Je répète. Satisfais constamment les besoins sexuels de ton conjoint. Je vais le dire comme ceci. Ne refuse jamais l'intimité à ton conjoint. Je ne cherche pas à choquer ici, mais j'aimerais dire les choses comme elles sont dans la Bible. Mes amis, oui, l'adultère commence dans le cœur, mais l'adultère termine dans le lit. C'est un péché d'ordre sexuel. Laissez-moi vous dire une chose simple. Un conjoint sexuellement satisfait n'ira pas chercher ailleurs. L'homme et la femme mariée doivent être satisfaits sexuellement ou bien ils seront tentés d'aller autre part. C'est aussi simple que cela. L'intimité sexuelle est quelque chose d'important dans un mariage. C'est pas tout, mais c'est important. Et il faut le savoir. Tellement important, et là vous allez être étonnés, et quand je fais de l'évangélisation, parfois je commence avec ça. La Bible prescrit la sexualité conjugale comme un devoir. 1 Corinthiens 7. Il dit, verset 2, « Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari, écoutez bien, rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est le mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » La Bible est très très claire sur ce point. Le corps d'une femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari. Et le corps du mari ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. Ils se doivent satisfaction sexuelle. La Bible est claire. Ce n'est pas une option, c'est un devoir, c'est un commandement. Et c'est ce qu'il dit, cela évitera la débauche et l'adultère. 5. Sois radical quant à la tentation qui frappe à ta porte. Sois radical quant à la tentation qui frappe à ta porte. Nous serons tous tentés. Bienvenue au monde réel. Ça commence avec les yeux. Et je parle souvent, messieurs, je pense que les hommes ont un problème dans ce domaine, probablement plus que les femmes. Regardez ce que Job a dit. « J'avais fait un pacte avec mes yeux, Job 31.1, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » J'ai un moment donné où l'homme doit faire un pacte avec ses yeux. Se dire, bon, là j'ai un problème, Seigneur, aide-moi. Et c'est pas le radar. D'accord ? Et dans Matthieu 5, 29 et 30, ben Jésus a dit, écoute, si ton œil, si ta main, si ton pied est un problème, tranche, sois radical. Vous vous rappelez Joseph, quand il était tendu à la débauche par la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été radical, il a même perdu ses habits en partant, vous vous rappelez, il est parti tout nu. Mais il a couru. Voilà ce qu'il faut faire. 6. Écoutez bien. 6. Réfléchis bien aux conséquences de commettre l'adultère. Si aujourd'hui, dans une situation où tu réfléchis, réfléchis aux conséquences avant d'aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Je te le supplie. Proverbe 6, 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sang. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Pense, si tu commets l'adultère et c'est su, la conséquence sur ton conjoint, la conséquence sur tes enfants, la conséquence sur tes parents, la conséquence sur ses parents, à ton conjoint, la conséquence sur ton entourage, la conséquence vis-à-vis de tes voisins, la conséquence vis-à-vis de l'Église, la conséquence au travail, la conséquence de ta réputation et la conséquence vis-à-vis de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine ? Et dernièrement, jouis de ton conjoint. Écoutez ce verset génial. Ecclésiaste 9, 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité, et que tu t'as donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tu as le droit de jouir pleinement de ton conjoint. C'est beau, non ? Tellement beau. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, Proverbe 6, 5, 19. Gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Non, focalise-toi sur ton épouse, sur ton mari et aime-le ou la. Pas quelqu'un d'autre. Si vous voulez un livre dans la Bible qui fait un peu rougir, il faut aller lire le Cantique des Cantiques. Il est super ce livre. Écoutez, un homme et une femme. Alors lui dit, « Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Considère son épouse son amie. C'est beau, non ? Elle répond, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mes palais. Et il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il aime sa femme. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien compris, d'accord ? Car je suis malade d'amour. Non mais allez voir, c'est génial. Elle est malade d'amour. Ça, c'est la joie d'un mariage. On a le droit d'être malade d'amour pour son conjoint. Et John, si je suis célibataire, je fais quoi ? Septième question. Écoutez, c'est simple. Seule ta femme ou ton mari t'appartient. Tu n'as qu'une solution, attendre que Dieu te l'envoie s'il te l'envoie. Entre-temps, réserve-toi sexuellement pour lui ou elle. Écoute, je vais te dire un truc. Vous savez, quand les gens sont mariés, ils se disent « Ah, moi, je veux la fidélité sexuelle dans mon mariage !» D'accord ? Reste fidèle sexuel et attends ton conjoint. Le jour où Dieu te donne ton conjoint, tu pourras dire à ton conjoint, tu sais, je t'aime tellement que je t'ai attendu. Et je prouve par cela qu'une fois qu'on est marié, je vais rester fidèle. Je me suis resté fidèle avant, et donc je te prouve que je vais rester fidèle après. C'est la meilleure preuve d'une fidélité après. Donc tiens bon, tiens bon. Et tu dis, ouais, mais John, mais moi j'ai déjà commis l'adultère. Moi j'ai déjà péché sexuellement. Moi c'est fichu. Non, c'est pas fichu. Écoutez, la grâce de Dieu, là j'ai des frissons à y penser. 1 Corinthiens 6, allons-y, on termine avec ça. Excusez, j'étais long, mais c'est pas grave. Regardez, 1 Corinthiens 6, regardez. 1 Corinthiens 6, vous dites, John, je suis adultère, je suis débauché, tu comprends pas ma vie, c'est une omelette. John, est-ce que tu pourrais créer des œufs? Moi je ne peux pas créer des œufs d'une omelette, d'accord, mais Dieu peut. Regardez ce qu'il fait. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jésus-Christ, mon ami, peut te laver blanc, totalement lavé. Et à partir de ce jour-là, tu dis, ben voilà, aujourd'hui, je recommence à zéro. J'attends le conjoint que Dieu me donne. Je me repens de tout péché sexuel. Et Seigneur, maintenant, je veux marcher avec toi. Et Dieu te pardonne. Il te lave. Waouh ! Ça, c'est l'évangile, mes amis. Ça, c'est l'évangile. Je propose qu'on se lève. Levons-nous. Je ne sais pas où vous en êtes exactement avec le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes avec ce sujet. Mais Dieu sait. Il vous voit parfaitement. On va prendre 15 secondes. Faites ce que vous devez faire dans votre cœur maintenant par rapport à votre situation. 15 secondes, d'accord ? Chacun tout seul, 15 secondes, fais ce que tu dois faire. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Merci pour la parole de Dieu qui est si claire et si précise. Ô Seigneur, peut-être certains sont chargés aujourd'hui. Peut-être leur situation, elle est compliquée. Peut-être qu'ils ne voient pas encore tout à fait clair. Seigneur, s'il te plaît, agis dans leur vie, réconforte-les, montre-les que tu les aimes et que tu veux agir dans leur vie d'une manière très précise. Seigneur, fais ton œuvre, s'il te plaît, par ton Fils ressuscité, Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, fais ton œuvre et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen.